9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
François Claus.
Il est 9h42, la suite de Culture Média avec vos invités. François, aujourd'hui, on accueille Luc Brunner, directeur de la rédaction du Monde, une grande signature à ses côtés, Annick Cojean, grand reporter, pour parler du 75e anniversaire du journal et de son déménagement.
Et oui, ça se fête, ces 75 ans du Monde. Bonjour madame, bonjour monsieur.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait qu'on parle d'une institution quand on parle du Monde? Qu'est-ce qui fait que c'est une institution, Luc Brunner, et qu'est-ce qui fait qu'on reste une institution?
Je pense qu'on reste une institution parce qu'on a la chance assez extraordinaire dans le paysage médiatique aujourd'hui d'avoir quasiment 500 journalistes. Et donc, qu'est-ce qui permet à un média, dans un univers qui est aussi secoué, aussi contesté que celui des médias, de garder cette force? Ce sont les journalistes, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, d'avoir une rédaction forte de quasiment 500 journalistes, ça nous donne une liberté en termes d'organisation, de temps d'enquête. Ça nous permet aussi d'avoir des journalistes très spécialisés. On a des journalistes qui sont spécialisés sur la politique monétaire, sur le théâtre, sur l'immigration, sur à peu près tous les sujets. Je crois que c'est ça qui fait aujourd'hui que Le Monde peut rester un journal de référence.
Mais cela passe justement par des investissements singuliers dans un monde où on est plus en état aujourd'hui de réduire des effectifs que de les développer. Comment est-ce que vous avez réussi à défendre et à réussir ce choix d'une rédaction étoffée de jouer la carte de la qualité?
Alors ça tient à un choix historique il y a plusieurs années d'axer notre développement sur l'abonnement numérique. Le fait de considérer que l'information gratuite, en tout cas en ce qui concerne la presse écrite, n'a pas de valeur. Et que si vous fondez tout votre développement sur le fait de donner gratuitement de l'information, à la fin, vous êtes dépendant des grandes plateformes, vous êtes dépendant des annonceurs notamment. Le choix du Monde et le choix de développer l'abonnement numérique très fortement, ça nous permet d'avoir des chiffres de diffusion qui sont assez extraordinaires. Je vous donne juste un chiffre. On est aujourd'hui avec une diffusion quotidienne du Monde moyenne de 330 000 exemplaires. On est revenu à la diffusion du Monde de 2003, c'est-à-dire qu'on a effacé 15 années de difficultés de la presse française.
Annick Cojean, vous dites, je suis entré dans cette institution comme en religion quand vous y êtes arrivé.
J'ai vraiment dit ça?
Mais oui, vous avez dit ça, regardez, c'est devant moi. Là.
Mais d'une certaine façon, oui, je suis rentrée très jeune au Monde, j'avais 23 ans, et c'était un peu écrasant. Et quand vous dites institution, oui, j'avais ce sentiment, d'abord physiquement, le bâtiment était très impressionnant avec la grande horloge.
Je vous parlez du boulevard des Italiens, au cœur,
oui,
de Paris, dans le deuxième arrondissement.
Exactement, le siège pendant 46 ans du journal. Et puis je me faufilais dans le petit ascenseur qui était vraiment minuscule, qui était très gris, etc. C'est pas les beaux locaux que nous allons avoir maintenant. Et j'y croisais Hubert Boeuf-Méry. Je me faisais toute petite dans l'ascenseur parce qu'il m'impressionnait tellement. Il avait une allure à la De Gaulle. Et puis je croisais des grands noms qui étaient là depuis effectivement 20 ans, 30 ans, etc. Donc il y a aussi cette injonction, quand on arrive au Monde, à être à la hauteur de cette grande histoire et de cette grande institution. De faire aussi bien et en tout cas de ne pas leur faire honte. Moi, j'étais accablée par ce sentiment qu'il fallait que je sois, que j'essaie d'être très bien, d'écrire joliment aussi, d'écrire.
Et d'apprendre, parce qu'il y a une question aussi que vous évoquez beaucoup dans votre papier de transmission interne au journal d'un certain nombre de valeurs.
Oui, réellement. C'était très important. On se passait le relais, on se passait le flambeau. Et ça veut dire quelque chose quand même, se passer le flambeau. On portait haut les couleurs, pensait-on, je l'espère encore, je le crois encore, du journalisme, avec une déontologie, avec une éthique, avec une volonté de rigueur, et puis avec une volonté de regarder l'ensemble de la planète. On s'appelle Le Monde, quand même. Et donc, c'est une ambition internationale qui était très forte. Et je vous assure, quand on arrive jeune journaliste dans ce journal, je ne le suis plus, mais c'est vrai qu'il y avait tout ce côté un peu écrasant, mais formidablement stimulant, être à la hauteur de ce titre.
Et qui réussit donc, Luc Brunner, à passer le temps, ce pari de la non-gratuité que vous évoquiez à l'instant, finalement, le monde de la musique, le monde de l'image l'a connu. Il a fallu faire un travail sur les mentalités, parce qu'il y a une génération qui est arrivée, celle des lecteurs, dire mais pourquoi je dois payer pour des infos alors qu'elles sont là partout sur mes réseaux. Comment est-ce que ça a fonctionné pour que finalement vous ne viviez pas une période plus longue de difficultés comme le monde de la musique ou de l'image a pu la vivre?
Alors, il faut être modeste. Je pense qu'on a aussi bénéficié de l'expérience des autres, et notamment le fait que le monde de la musique, celui du cinéma, ait développé des offres d'abonnement. Et donc, on s'est mis quelque part dans ce cheminement moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, très naturellement, une partie de la population française va s'abonner à Deezer ou Spotify, ou va s'abonner à Netflix ou à une plateforme de vidéo à la demande. Et je pense que naturellement aujourd'hui, et le monde en bénéficie en premier lieu, une partie de l'opinion, et notamment des gens qui sont diplômés, choisit de s'abonner à un ou deux titres de presse pour avoir un bon niveau d'information.
Vous avez vécu, il y a d'autres institutions, on parlait du New York Times tout à l'heure dans le journal des médias, le New York Times, je crois que c'est 47 millions d'abonnés numériques, on est à échelle évidemment américaine, mais est passé au seuil de la rentabilité grâce à cet abonnement numérique.
C'est exactement les mêmes trajectoires avec quelque chose qui nous avantage, il y a une prime au premier qui est très grande, c'est-à-dire que le média qui a l'offre la plus puissante réussit à conquérir un plus grand nombre d'abonnés dans la foulée. Donc c'est vrai qu'on est dans une position qui est extrêmement favorable parce que ça nous donne du temps, ça nous permet de réfléchir. Là, par exemple, avec nos équipes, on travaille sur toutes les grandes enquêtes d'investigation sur l'année 2020 et on sait d'emblée que pour 2020, on pourra sortir 4 ou 5 très grosses enquêtes qui feront beaucoup de bruit. Et c'est vrai que ça, le fait de s'adresser à un public d'abonnés, c'est quelque chose qui donne beaucoup de temps, qui permet de ne pas être dans l'angoisse de la une du journal jour après jour, sur lequel il faudra aller chercher...
Enfin, de mener les deux de front, parce que cette angoisse-là et l'adrénaline du métier aussi du lendemain, et qu'il faut mener l'autre. Et on va le voir se diversifier, parce qu'aujourd'hui, être journaliste au monde, c'est peut-être aussi, on en parlait à l'instant, faire des podcasts, c'est peut-être aussi écrire sur le web. Comment cette diversification s'est déroulée, on en parle dans un instant avec vous, Annick Cojon et Luc Bronner.
Et oui, le Journal du Monde fête ses 75 ans, l'occasion donc de revenir sur cette institution. Restez avec nous, c'est Culture Média, jusqu'à 11h. Europe 1 Culture Média, François Claus. Vos invités médias, François, ce matin, Luc Bronner, directeur de la rédaction du Monde, Annick Cojon, grand reporter au Monde, l'occasion de rappeler que le journal fête ses 75 ans et déménage.
Et déménage et se diversifie, a su investir, nous l'expliquait Luc Bronner à l'instant, au moment où il le fallait, dans une rédaction aujourd'hui forte de 500 journalistes. Dans un très beau papier dans le supplément du Monde daté de jeudi dernier, Annick Cojon, vous racontez l'évolution des lieux, comment vous êtes passé du boulevard des Italiens, très sombre, au lumineux boulevard Blanqui dans le 13e arrondissement. Oui. Aujourd'hui, vous êtes prêt et propriétaire, il faut le signaler, le Monde d'un nouveau bâtiment à Austerlitz.
Immense bâtiment, oui.
Ces changements d'ordre immobilier illustrent aussi l'évolution du métier, une autre manière de travailler à laquelle vous avez dû et vous avez su vous adapter.
Oui, bien sûr que ça a beaucoup changé entre la rue des Italiens, évidemment, et ce grand bâtiment près de la gare d'Austerlitz. Alors là, il y a vraiment une différence colossale. La rue des Italiens, en plus, vous savez, il y avait une usine, il y avait des rotatives dans le sous-sol de la rue des Italiens, si bien que quand elles se mettaient à s'ébranler vers midi, tous les murs tremblaient et on avait tous le sentiment de faire partie d'une collectivité incroyable. C'était
à chaque fois une aventure. Au moment de l'accouchement, au moment où le journal sortait des presses.
On s'était levé très très tôt, on avait travaillé la nuit, on avait envoyé nos papiers et puis 2 heures après, l'usine vibrait complètement et on se disait ça y est, ça marche. Et puis on entendait ensuite les crieurs, les motos, tout le monde pétardait au bas de l'immeuble, les cyclistes et motos donc partaient vers l'Élysée, vers les différents ministères, etc. Et donc, on avait très concrètement le résultat de notre travail. Il y avait quelque chose de très collectif et de très excitant.
Une autre époque.
Je vous parle d'un temps,
on était à la langue frontale, disiez-vous, à ce moment-là, pour écrire dans les sous-sols du boulevard des Italiens. Oui. Et ensuite, il fallait mettre des lunettes de soleil tellement lumineux.
Je pense que ce sera également lumineux, j'espère, à Austerlitz, effectivement. Et puis alors maintenant, effectivement, on est très coupé de l'usine d'impression, etc. Puis ça se peut plus pareil. On travaille tous sur notre écran, on travaille tous en disant qu'on va sans doute être lu sur un petit téléphone portable, que ça n'a plus rien à voir. Et c'est tout aussi excitant. C'est ça qui est marrant. C'est qu'effectivement les murs ont changé, que les techniques ont complètement changé, qu'on envoie nos articles avec un clic, alors qu'avant il fallait appeler les sténos, etc. Que même les articles étaient écrits à la main il y a fort longtemps. Et que maintenant, au fond, la base du métier n'a pas changé. Il s'agit toujours d'informations, de la vérifier, qu'elles soient rigoureuses, qu'en soient les premier, si possible, mais on nous donne aussi le temps. Donc, le plus important, c'est qu'elle soit vraie. Et puis voilà, l'éthique et la déontologie n'ont pas changé. Et notre volonté d'indépendance est exactement la même. Et tout est là.
Annick Cojon disait un mot très important, Luc Bronner, on nous donne le temps. Dans cette époque, et on a vécu le dernier du pont de Ligonnès, moments un peu dramatiques pour notre métier, où on va trop vite, parce qu'on est poussé par le tout info du côté des télés, par les réseaux sociaux. Cette notion de si possible être les premiers, comme disait Yannick Ogen, mais de prendre son temps est capital et vous le cultivez comme une véritable valeur au monde.
Oui, c'est, je pense, ce qui peut faire la différence dans un univers dans lequel le bruit médiatique est constant et pas très intéressant. Quand je regarde le programme des chaînes d'infos en continu, toutes les informations se banalisent, s'égalisent quelque part. Et donc, je crois à l'inverse qu'il y a aujourd'hui une demande de hiérarchie de l'information très grande. Et la hiérarchie de l'information, on le disait tout à l'heure à travers la une du journal, mais on l'a aussi dans le fait de choisir des sujets, d'investir en temps de travail de journaliste, en équipe de journalistes, pour aller creuser très profondément un sujet. Je vous donne un exemple sur la question des féminicides dont on parle beaucoup ces derniers mois. On a décidé il y a pratiquement un an de mettre une équipe de 12 journalistes pour investiguer sur tous les féminicides commis en France en 2018. C'est un projet monumental. On en fera un documentaire l'année prochaine en 2020 avec cette idée qu'on va creuser vraiment de façon très investiguée, très approfondie un sujet. Je crois que c'est ça qui peut aujourd'hui faire la différence.
Oui, parce qu'on était, Annick Ogen, dans ce paradoxe que le tout info a finalement d'une certaine manière tué l'info et qu'à un moment donné où il faut faire un tri, où il faut prendre le temps de donner du sens, ce qui est l'une des vocations et l'un des positionnements que le monde a défendu et de manière payante.
Oui, toujours. Toujours, vous savez, on fait des grandes séries. Ces jours-ci, il y avait Ryan Chemin a fait une série sur Milan Kundera. Ça ne s'imposait pas, ce n'était pas nécessaire et il se trouve que c'était formidable.
Jérusalem-Sarajevo l'été dernier, je peux la renvoyer aux lecteurs qui était une formidable série.
Ben voilà, on fait des séries l'été, on fait des séries l'hiver, on peut faire de temps en temps. Moi, je participe beaucoup à la page « Je ne serais pas arrivé là si ». Ce sont des longues interviews. Et ben, ça ne s'écrit pas en un après-midi. Ce sont des interviews qui prennent du temps là aussi et que je voudrais intemporelles et presque patrimoniales. Voilà. Et ça donne le temps, là aussi sont des interviews un peu décalées, un peu différentes, j'espère même très différentes, et c'est ça que permet le monde, et c'est un vrai plaisir. Donc quand on est, moi je ne suis pas un chef du tout, mais je suis grand reporter, et je trouve que j'ai une chance insensée, parce que oui, de temps en temps je suis envoyée sur un coup de téléphone dans la nuit ou le matin, tu pars à tel endroit, Fidel Castro est mort, je sais pas, la révolution en Arménie, bon, faut partir tout de suite, puis à d'autres moments, on me laisse un mois, deux mois, sans trop me demander ce que je fais. Alors, j'ai obligation de résultat. En tout cas, je me la fixe, mon obligation de résultat. Il faut que ce soit bien et j'espère que Luc sera content de ce que je vais faire. Mais quand même, quel luxe extraordinaire. Et je crois franchement qu'il n'y a quasiment que le monde qui permette cette latitude-là. Je dirais le Guardian, le New York Times. Il y a quelques grands journaux comme ça qui sont un peu nos référents. Et je crois qu'on est un peu leur, j'allais dire leur petit frère. C'est même pas petit d'ailleurs, leur frère.
Et on a vu d'ailleurs un certain nombre d'alliances journalistiques qu'il fallait une puissance d'investigation. Je pense à tous ces lanceurs d'alerte qui nous ont ouvert sur des documents qu'il fallait décrypter, auxquels le Monde était associé. Ça aussi, c'est une nouveauté dans le monde de la presse que vous avez su, Luc Bronner, saisir au moment où il fallait.
Oui, ce sont des grandes opérations internationales avec parfois une centaine de médias, avec l'idée que si on crée des alliances, on a une capacité d'investigation qui est multipliée par le nombre de médias. Et donc, c'est vrai, depuis plusieurs années, dans le cadre d'un consortium international, on a lancé des grandes opérations, notamment sur l'évasion fiscale ou sur des questions de santé. Il y a d'autres sujets qui arrivent l'année prochaine avec cette idée qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce que permettent les moyens d'investigation traditionnels.
Face à un monde très puissant qu'on veut pénétrer, il faut être puissant aussi. Ben, merci beaucoup à vous d'être venus sur Europe 1 ce matin, Luc Bronner et Annick Ogen, nous raconter ce qu'était cette institution, employons le mot, qu'est le Monde et qui vit très bien et se porte très bien à 75 ans au moment de son déménagement. Bonne année 2020 au Monde. Donc.
Merci. Et Culture Média se poursuit jusqu'à 11h, François, avec votre prochain invité.
Oui, un personnage très singulier, ça fait 30 ans qu'on le voit dans des petits rôles parfois, dans des rôles de plus en plus importants. Là, il passe aussi à la réalisation, un homme de théâtre, Louis-Do de Langsin, et c'est le film La Sainte Famille, un film très singulier qu'on va vous conseiller, dans lequel on va voyager dans l'heure qui vient.
C'est juste après les infos.